Bonjour à tous, nous sommes le groupe 2 d'HGSP et nous allons aborder aujourd'hui le conflit israélo-palestine. On va partir de 2001, après les accords d'Oslo, le 13 septembre 1993, avec la reconnaissance de la Palestine, et on va aborder les évolutions du conflit. Pour cela, on peut se demander comment les multiples tentatives de paix depuis 2001 soulignent-elles les impasses du règlement d'un conflit de longue durée.
Est-il possible d'en apprendre plus sur les principaux acteurs de ce conflit ?
Les principaux acteurs du conflit sont le Hamas, qui est un groupe islamiste de résistance classé comme terroriste, fondé pour libérer la Palestine de l'occupation israélienne.
Il est un acteur majeur du conflit, puisqu'il est en guerre directe avec Israël depuis sa création. Le mouvement prône la lutte armée et rejette les processus de paix. Il est considéré comme une organisation terroriste par une trentaine de pays. Également, le Hezbollah, aussi appelé le Parti de Dieu. Le Hezbollah est un parti politique, et un groupe paramilitaire islamiste chiite, basé au Liban. Il est un acteur du conflit, car il veut adoucir la pression militaire exercée sur le Hamas. Donc, il intervient dans le conflit israélo-palestinien. Enfin, l'OLP, l'Organisation de la Libération de la Palestine, fondée au Caire en 1964. Elle est composée de plusieurs organisations palestiniennes, dont le Fatah, le Front Populaire de la Libération de la Palestine, et le Front Démocratique pour la Libération de la Palestine. Elle est considérée comme un acteur, puisqu'elle cherche à récupérer les territoires de la Palestine. Mais on a aussi d'autres acteurs, comme l'Iran, en lutte contre Israël depuis des années. L'Iran soutient le Hamas et la Syrie. Les civils palestiniens sont enfin l'un des plus grands acteurs, puisqu'ils sont directement touchés par les conflits, comme avec l'Intifada.
Et sur la scène internationale, la Palestine se positionne comment ?
Sur la scène internationale, la Palestine a une reconnaissance. Elle est membre de l'UNESCO depuis 2011 et État observateur au sein de l'ONU depuis 2012.
J'ai également entendu parler du Qatar, mais qu'en est-il de son rôle dans le conflit ?
Le Qatar est un acteur clé de la situation actuelle, en Israël et en Palestine, pour diverses raisons. Premièrement, il sert d'interlocuteur à la fois du Hamas, d'Israël et des Occidentaux. Il a par exemple permis de conclure un accord entre Israël et le Hamas pour une pause humanitaire, dans la guerre qui les oppose à un moment, et dans la libération des otages aussi. De plus, le gouvernement qatari offre un soutien financier important aux frères musulmans en général et a fourni au moins 2 milliards de dollars au Hamas.
Mais pourquoi n'arrive-t-on donc pas à la paix ?
Premièrement, il y a des enjeux internationaux avec des acteurs internationaux. L'Iran, la Syrie soutiennent le Hezbollah, et prennent une partie du Liban. Les USA soutiennent Israël. Le Qatar a une position ambiguë, il est constructeur du dialogue, mais il finance le Hamas. En plus, il y a des enjeux territoriaux. Premièrement, la ligne verte, qui sépare Israël et la Cisjordanie, et d'un autre côté, la division de Jérusalem, une ville sainte de trois religions, revendiquée des deux côtés, séparée entre Est et Ouest.
Et la question Fatah-Hamas pose-t-elle un réel problème pour la paix ?
Alors oui, il y a un enjeu idéologique et territorial. Ainsi, l'autorité palestinienne étant divisée sur la scène internationale, le Fatah et le Hamas ne peuvent pas maintenir un cap clair.
Mais qu'est-ce qui empêche une solution à deux États ou juste binationale ?
Tout d'abord, cela fait plusieurs décennies que les gouvernements cherchent à mettre en place une paix durable entre Israël et la Palestine. Les accords d'Oslo notamment, qui, en 1993, ont permis de mener un ensemble de discussions entre des négociateurs israéliens et palestiniens. C'est ici qu'est apparue l'idée d'une solution à deux États, c'est-à-dire que les pays sont uniques et indépendants l'un envers l'autre. Cependant, plusieurs facteurs empêchent la totale réussite de cette réforme. Par rapport à la question des frontières, les accords d'Oslo se basent sur la ligne verte, délimitée en 1949. Mais depuis, cette frontière ne ressemble plus du tout à cela, puisque les colonies israéliennes ont envahi la Cisjordanie et ont dépassé ses limites. Ce qui veut dire que des citoyens israéliens ont parfois construit des villes entières sur un territoire qui n'est pas le leur. Ainsi, cette violation des frontières apporte un immense frein au processus de paix, d'autant plus que les territoires palestiniens sont déjà coupés en deux, entre la bande de Gaza et la Cisjordanie. Également, la question de la division de Jérusalem reste en suspens. En effet, Jérusalem est une ville considérée comme sainte par trois religions, l'islam, le judaïsme et le christianisme. Elle est par conséquent extrêmement revendiquée, sans compter qu'elle tient lieu de ville capitale pour les deux pays. Actuellement, la ville est coupée en deux, Jérusalem-Ouest pour les Israéliens, Jérusalem-Est pour les Palestiniens. Or, la vieille ville, un minuscule quartier où se superposent de nombreux lieux saints, reste impossible à diviser. Enfin, depuis la création de l'État d'Israël en 1948, plusieurs millions de Palestiniens ont fui la région à l'étranger. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, est favorable à un droit de retour des Palestiniens sur leurs terres. Cependant, l'État d'Israël est défavorable à un retour massif de ces Palestiniens exilés dans la région. Ainsi, ces trois grands obstacles forment un réel frein à une solution à deux États, et de moins en moins de personnes tarivent à y croire. En 2018, soit 30 ans après les accords d'Oslo, moins de 50% des Palestiniens croyaient encore à cette solution. La dernière qui nous vient en tête serait la solution d'un État binational, qui consiste à la création d'un État unique, dans lequel deux nationalités seraient définies constitutionnellement. Malheureusement, on peut toujours se poser la question de la garantie de la sécurité des deux communautés au sein d'un même territoire, après toutes ces années de conflit.
D'accord. Et est-il possible d'en apprendre plus sur les différents enjeux ayant alimenté le conflit ?
Alors, on va revenir sur les enjeux territoriaux, idéologiques et internationaux, parce qu'ils sont source justement de beaucoup de tensions. Tout d'abord, les enjeux territoriaux. On va prendre l'exemple de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, qui sont des territoires qui subissent des attaques et des occupations depuis la guerre de Six Jours en 1967. La bande de Gaza est aussi sous blocus depuis 2007. Il y a aussi des enjeux idéologiques. Certaines branches plus radicales du sionisme revendiquent par exemple un territoire englobant les territoires palestiniens. Certains parlent même de, je cite, « Grand Israël ». Cette théorie, mise en avant par plusieurs politiciens et dirigeants israéliens, englobe plusieurs territoires. Donc tout d'abord la Cisjordanie, la bande de Gaza, le plateau du Golan, le sud du Liban et des parties de la Jordanie et de l'Irak. La définition de ce territoire varie évidemment selon les groupes, mais il y a une volonté de reconstituer un royaume d'Israël se fondant sur des textes bibliques. Du côté du Hamas, ce n'est pas vraiment mieux puisque l'on revendique un territoire qui s'étend de la rivière à la mer, englobant donc les territoires israéliens. Ces deux idéologies, ayant un but similaire, font qu'il y a peu de compromis possibles et peu de marge de manœuvre.
Vous avez évoqué le terme sionisme. Est-il possible d'en savoir davantage sur cette notion ?
Alors, le sionisme, c'est un mouvement nationaliste né au XIXe siècle qui prône la création d'un foyer national juif en Palestine. Sionisme, ça vient du terme Sion, qui est une colline de Jérusalem. Ils basent leurs revendications sur les textes bibliques qui parlent de terres promises, cela dans le but de préparer la venue de, je cite, « le Messie ». On peut aussi revenir sur les enjeux internationaux. On peut voir que le conflit affecte la stabilité de la région du Moyen-Orient, avec des tensions entre les pays voisins et les grandes puissances mondiales. Les relations diplomatiques et les enjeux des différents États s'expriment aussi à travers ce conflit. Par exemple, depuis le 7 octobre 2023, la Russie et la Chine ont souhaité jouer le rôle de médiateurs dans le conflit, à un moment où la guerre en Ukraine était de plus en plus critiquée et où les tensions entre la Chine et Taïwan augmentaient. Les États-Unis affichaient quant à eux un soutien fort et parfois controversé à l'État d'Israël. La question des droits de l'homme est aussi centrale. Le conflit apparaît comme déterminant sur le positionnement des différents États, de la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice, sur leur capacité ou non à réagir et sur leur impartialité. Ces différents enjeux démontrent un conflit complexe, alimenté par plusieurs points de tension, nécessitant une approche plus globale et collaborative.
Qu'en est-il aujourd'hui de l'engagement des pays étrangers dans le conflit israélo-palestinien ?
En effet, en 2020, avec l'accord d'Abraham, un accord qui a comme but de maintenir et de renforcer la paix au Moyen-Orient, dans le monde, il y a une normalisation des rapports entre Israël et les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn, le Maroc, le Soudan et d'autres.
Est-il possible d'avoir un rappel sur le 7 octobre 2023 et également les conséquences de cette attaque ?
Le 7 octobre, il y a eu une attaque terroriste de la branche armée du Hamas qui a eu lieu depuis la bande de Gaza contre Israël. Le Hamas, c'est l'acronyme pour Mouvement de la Résistance Islamique, fondé en Palestine durant la première intifada de 1988. Par ses motivations d'une Palestine comme celle d'avant 1947, ils ont attaqué directement Israël, menant à la mort de 1200 personnes, dont une majorité de civils israéliens. On compte aussi plus de 200 otages. Les conséquences de cette attaque sont la réplique de Tsahal, qui est l'armée israélienne, qui va contre-attaquer la bande de Gaza avec plusieurs milliers de Palestiniens tués lors des bombardements. Il va y avoir aussi en réponse à l'attaque, la mise en place d'un blocus humanitaire sur la bande de Gaza.
Avez-vous un bilan humain à nous donner ?
Le bilan, côté palestinien, est lourd. Depuis 2023, dû au conflit, il y a 43 972 morts et en Cisjordanie, on compte plus de 737 morts avec 6 600 blessés. Selon l'UNICEF, actuellement, un enfant est tué ou blessé toutes les 10 minutes à Gaza. Cela prouve bien les conséquences humaines de l'attaque.
Et comment se positionne le droit international sur la question de ce sujet ?
Le 26 janvier 2024, la Cour internationale de justice, connue ainsi comme la CIG, a dévoilé un risque de génocide à Gaza. Après des semaines de discussions initiées par l'Afrique du Sud, l'intervention d'avocats de différents pays qui ont rendu leurs conclusions, il y a une reconnaissance de ce risque. Selon le droit international, Israël doit donc absolument éviter un risque de débordement des violences.
C'est quoi exactement la CIJ ?
Alors, la CIJ, c'est la Cour internationale de justice qui siège à La Haye aux Pays-Bas. En fait, c'est l'organe judiciaire des Nations Unies qui applique ainsi le droit international.
J'ai aussi entendu parler de l'URNWA, mais j'ignore son rôle dans le conflit.
Alors, l'URNWA, c'est l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Moyen-Orient. Il a été créé en 1949 et cet organisme onusien est initialement temporaire. Il a pour but de fournir de l'aide humanitaire aux réfugiés palestiniens et à leurs descendants. Toutefois, l'URNWA ne peut pas constamment intervenir et des acteurs à l'échelle internationale s'y opposent. Récemment, dans le conflit israélo-palestinien, le Parlement israélien a fait voter un projet de loi pour arrêter l'URNWA le 28 octobre 2024. Par conséquent, les réfugiés ne peuvent plus être protégés et accompagnés. Cette organisation, qui permet au départ l'approvisionnement en nourriture et en eau, un accès à l'éducation et à la santé, va donc disparaître de ces territoires. Les conditions de vie des Palestiniens vont donc se dégrader dans les prochains mois.
D'accord. Pour finir, avez-vous d'autres informations sur l'actualité récente au sujet de ce conflit ?
Dernièrement, des événements marquants se sont déroulés. Le 21 novembre 2024, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre le ministre israélien Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant, ancien ministre de la Défense. Il semble important de noter que la Cour internationale de justice a une vocation universelle. Elle est chargée de juger les personnes accusées de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes d'agression et de crimes de guerre.
En somme, malgré les multiples tentatives de paix, depuis 2001, la situation n'a pas évolué et a même régressé, dû à un grand nombre d'impasses empêchant le règlement de ce conflit.
Thank you.